Il est temps de reprendre le débat sur la Nouvelle-Calédonie, le départ du chef de l'État pour l'archipel. C'est l'heure du Face à Duhamel. Avec ce soir l'éditorialiste Anna Cabana. Bonsoir Anna.
Bonsoir.
Bonsoir Anna.
Bonsoir Alain.
Messieurs.
Avant de lancer le débat, ou plutôt pour vous permettre de lancer le débat, on va réécouter le Premier ministre Gabriel Attal. C'était cet après-midi à l'Assemblée nationale sur les motivations du voyage. Est-ce que le président doit dire là-bas et dans quel état d'esprit se trouve le gouvernement ?
L'avenir de la Nouvelle-Calédonie passe évidemment par des évolutions institutionnelles qui font suite aux référendums qui se sont tenus. Mais il passe aussi par un travail beaucoup plus global et par le dessin d'un chemin du pardon et d'un chemin d'avenir pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de vivre en paix à l'avenir. C'est cela qui nous mobilise, c'est cela qui continuera de nous mobiliser avec mon gouvernement.
Donc la mobilisation du gouvernement, du côté de l'Élysée, on parle d'un acte fort. C'en est un, le voyage du chef de l'État, Alain ?
Écoutez, Le plus brillant des présidents du Conseil de la 4e République, Edgar Faure, avait lancé une formule fameuse. Il n'y a pas de politique sans risque, mais il y a des politiques sans chance. C'est exactement ce qui s'applique à la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à présent, le gouvernement, donc le président, avait appliqué une politique sans chance. Quand il s'agit de la Nouvelle-Calédonie, il y a bien sûr l'ordre à maintenir, c'est le préalable, c'est normal, mais il y a ensuite le dialogue, il y a le consensus, il y a accepter de passer beaucoup de temps pour parler avec beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord entre eux, y compris à l'intérieur de chaque camp. Si on n'accepte pas ça, ça ne marche pas. Pendant 6 mois, là, on a essayé de faire quelque chose qui était rapidité-autorité. Ça a échoué, c'était une mauvaise méthode. Bon, cette fois-ci, on essaye une autre méthode. Emmanuel Macron y va.
Elle est encore assez floue, la méthode, quand même. Hein.
Non.
La mission, c'est pas ce qui va mener.
Non, je suis d'accord avec vous, mais il y a une chose qui est très claire, c'est que c'est le contraire de ce qui a été fait pendant 6 mois. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit toute l'opposition cet après-midi. Hein, et ça a encore été répété, si j'ai bien entendu, sur votre propre plateau il y a quelques
par
minutes.
Par Madame Obono.
Par exemple. Bon, c'est pas que ce soit ma référence, mais enfin.
Mais c'est y aller pour dire finalement, on retire le texte. Et donc on cède face à la violence ?
Il faut y aller pour dire, un, on est prêt à parler, et pas simplement à bousculer. Deux, on veut entendre tous les points de vue. Et trois, essayons de mettre sur pied un système de dialogue. Je vous signale que ça a déjà été fait 2 fois, à 2 moments différents, par 2 premiers ministres, d'ailleurs socialistes, et que ça avait marché.
Michel Rocard, Lionel Jospin.
Voilà, et que là, on a fait le contraire, et que ça n'a pas marché.
Mais ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à hier soir à l'Élysée, on nous disait que Macron n'était pas prêt à faire une mission de dialogue, que précisément ce dialogue qui lui était demandé par tout le monde, hein, parce que depuis le rendez-vous, la réunion organisée autour de Gabriel Attal vendredi avec les présidents des 2 assemblées et les parlementaires, au fond, il y avait un quasi-consensus dans cette réunion sur le fait qu'il fallait, envoyer une mission
changer
de dialogue, changer de méthode.
Là, c'est pas la mission qui part, c'est Madame Macron.
C'est pour ça que je vous dis ça, c'est que le seul qui n'appartenait pas à ce consensus, c'était Gabriel Attal, précisément parce qu'il se référait à la lettre envoyée par Emmanuel Macron, cette fameuse lettre qu'à l'Élysée on appelle la lettre du 15 mai, où il a dit aux chefs des groupes du Congrès calédonien et aux présidents des partis qu'il les invitait à Matignon pour dialoguer et que, faute d'accord, il réunirait le Congrès à la fin du mois de juin. Ensuite, Marie Guévenoux, la ministre chargée des Outre-mer, avait même précisé qu'elle avait donner des dates pour le congrès à la fin du mois de juin. Donc là, on sentait que le rapport de force était posé, qu'il y avait quelque chose d'assez implacable, voulu par Emmanuel Macron, assumé par Gabriel Attal, et badaboum. Ce matin, il prend tout le monde par surprise, y compris, d'ailleurs, sa ministre des Outre-mer, Marie Guévenoux, n'était pas au courant. Ce que je veux vous dire, c'est que là, il part dans
ce... Il joue un rôle assez secondaire, quand même,
pour l'instant. Mais bien sûr, mais j'entends par là qu'au fond, il n'y a pas... Il y avait au fond Emmanuel Macron seul contre tous, avec tout le monde qui le poussait à renouer le dialogue, et lui qui résistait en disant l'ordre, 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 en pensant que dans les élections européennes, il fallait afficher un message d'ordre parce que c'était ça qui était payant politiquement. C'est ça qu'on vous expliquait à l'Élysée jusqu'à hier soir. Moi, ce que j'aime bien, c'est le revirement. Alors,
on n'a pas forcément les mêmes interlocuteurs, donc on n'a pas forcément.
Certes, non, c'est ça qui est intéressant.
On n'a pas forcément les mêmes sons à l'oreille. Ce qui est vrai, selon moi, Ce qui est vrai, selon moi, c'est que Emmanuel Macron était isolé par rapport aux dirigeants de la majorité et évidemment de l'opposition qui demandaient un changement de méthode et qui gardaient le silence et qui ne disaient pas ce qu'ils voulaient vraiment. Et là, il a pris tout le monde par surprise.
Comme il aime faire.
Comme il aime faire. Et c'est pas simplement de la politique pour les élections européennes. C'est parce que créer une surprise, donc un choc, qui peut très bien se traduire par un échec, hein, ça j'en sais rien, on verra bien. Mais c'est la seule méthode, brusquement, de dire « Ah,
pardon,
on change de climat et on change de méthode, il va se passer
c'est lui
autre
le,
chose. »
C'est lui le médiateur, ce que je n'ai pas compris, parce qu'on nous dit, Alain, pardon, excusez-moi, Emmanuel Macron
je vais vous expliquer.
Va en Nouvelle-Calédonie installer une mission, alors on ne sait pas qui, d'ailleurs je crois que l'Élysée n'est peut-être pas capable aujourd'hui de dire précisément qui composera cette mission.
Sauf s'ils veulent faire plaisir à Anne.
Mais donc c'est lui le médiateur ou est-ce qu'il y aura, savoir, y aura des personnalités surprises dans l'avion?
Alors j'en sais rien, c'est pas moi qui compose l'avion, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a l'idée d'avoir créé un effet de surprise pour tenter d'amorcer un dialogue qui était non seulement suspendu, parce qu'il faut quand même regarder la proportion des choses, qui se traduisait par un accès de violence, comme on en a vu.
Mais dialoguer avec ceux qui ont provoqué les violences ?
Il faut dialoguer avec tout le monde. Il faut dialoguer avec ses partisans, il faut dialoguer avec ses adversaires, il faut dialoguer avec des gens de bonne foi, il faut dialoguer avec des gens de mauvaise foi.
Ils veulent dialoguer, vous êtes sûr de ça ? Et ces gens-là veulent dialoguer.
Mais attendez, je vous dis pas, il faut dialoguer avec des gamins de 15 ans qui cessaient à envoyer des projectiles.
Je parle de ceux qui organisent la stratégie d'étouffement de Lille, en bloquant les routes.
Mais ça s'est toujours fait. D'abord, pour commencer, on ne négocie pas avec ses partisans, on négocie avec ses adversaires quand il y a un climat de ce genre. Et là, l'idée, c'est de créer un choc. Est-ce que ça marchera ? Je n'en sais rien.
Il reste que 24
heures. Mais on change de méthode, et donc, y a une hypothèse pour que ça marche. Je dis bien une hypothèse.
Mais il reste que 24 heures à ce stade, c'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas de délai, de durée de déplacement.
Déjà, on met quasiment 24 heures pour y aller.
Voilà, il y a 24 heures pour y aller, 24
heures
pour
venir. Donc il arrivera jeudi matin.
Donc les 24 heures peuvent être un tout petit peu dilatées et faire. Et Emmanuel Macron peut rester plus longtemps. Mais il faut bien voir une chose. Quand je parlais des élections européennes, c'était sur le caractère implacable du positionnement initial d'Emmanuel Macron qui voulait montrer l'ordre, précisément.
Oui, c'est ce que tout le monde lui demandait. Notamment à Nouméa.
Il considérait que c'était ça qui était payant. Mmh. Mais à l'Élysée, tout le monde a en tête cette fameuse mission du dialogue qui portait ce nom-là, la mission du dialogue mise en place par Michel Rocard, donc qui a permis ces fameux
avec à l'époque quand même des leaders qui étaient reconnus par tous, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Mais dans cette mission du dialogue, il y avait le président de la Fédération protestante de France, un ancien grand maître du Grand Orient de France, un chanoine et des hauts fonctionnaires. Donc il y avait véritablement l'idée d'en appeler...
Pour l'instant, on ne parle pas de ça.
Que François Mitterrand appelait les forces de l'esprit. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a gardé le secret sur cette mission de dialogue et probablement...
Ça pourrait être qui, alors ?
Quand on connaît Emmanuel Macron, on sait qu'il va jouer. D'abord, il a joué la surprise du calendrier en dégainant, comme il l'a fait là, parce que ça fait vraiment partie de la matrice tempéramentale de Macron, de vouloir surprendre. La deuxième surprise possible, c'est d'essayer de trouver à mettre autour de lui... des personnalités qui seraient susceptibles d'en appeler aussi aux forces de l'esprit.
Oui, des noms sont cités.
Ça ne peut pas se faire en 24 heures. Mais c'est vrai qu'il y a des possibilités. Il y a des gens qui... d'abord, il faut quelqu'un qui connaisse vraiment bien la situation sur place.
Oui, ça, c'est mieux, oui.
Bah oui. Mais oui, parce que c'est tellement compliqué.
Ça veut dire qu'on a des ministres qui connaissent pas bien le sujet.
La Nouvelle-Calédonie, c'est complètement atypique. Mmh. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la métropole. Mmh. Et il y a des conditions de discussion ou de révolte. Bon, mais il y a des personnalités. Il y en a qui sont connues. Bon, il y a d'anciens premiers ministres, par exemple.
Édouard Philippe, Manuel Valls,
voilà, c'est ça. Bon. Je ne suis pas sûr qu'Édouard Philippe puisse, pendant une campagne présidentielle, aller en Nouvelle-Calédonie pour aider Emmanuel Macron. Mais il y a aussi, au niveau au-dessous, il y a des gens qui connaissent bien et qui sont apaisants, créateurs de consensus. Je pense quelqu'un comme Jean-Jacques Urvoas, qui a été garde des Sceaux et qui connaît bien... Et socialiste modéré, et qui connaît bien le dossier de Nouvelle-Calédonie. Je ne vous dis pas que ce sera lui. C'est ce genre de gens-là qui sont utiles. Est-ce qu'ils vont être désignés en 24 heures et acceptés par tout le monde ? Ça, ce n'est pas sûr du tout. Mais je veux dire, on a employé, le gouvernement a employé une méthode qui a raté. Maintenant, il y a une autre méthode qui est à l'opposé. On va voir.
Et en plus, il n'a rien lâché, Emmanuel Macron, avant de partir.
Pour l'instant.
C'est-à-dire que voilà, non, mais précisément,
donc il peut négocier.
Ça lui permet, si on veut le prendre, tactiquement, du bon côté, ça lui permet ensuite d'arriver avec des munitions possibles. C'est-à-dire que tout ce qu'il lâchera sera de toute façon.
Enfin, ça va coûter. Lâcher, c'est quoi? C'est faire des chèques?
Qui s'est joué?
Aussi.
Non, mais.
Quoi qu'il en coûte et de retour, on fera de retour.
Là, il y a une certitude, compte tenu de ce qui s'est passé et qu'on a vu, sur notre antenne, à partir du moment où on brûle des maisons, à partir du moment où on détruit les entreprises, il faut bien les aider, autrement ils n'y arrivent pas. Et non seulement ils n'y arrivent pas, mais à ce moment-là, on risque d'avoir ce qu'on a connu en d'autres temps et en d'autres lieux, mais de près, c'est-à-dire un mouvement de départ, ce qui n'est pas non plus ce qui est souhaité. Bon, mais donc il faudra les aider.
Est-ce que Emmanuel Macron n'est pas le pompier pyromane dans cette histoire?
Là, il est le pompier, et on verra bien si c'est un pompier pyromane ou un pompier qui arrive à éteindre.
Non, mais il a déclenché le feu et maintenant il doit l'éteindre.
Il ne faut pas seulement un chéquier, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même dans les, si vous voulez, un respect de ce qu'ils appellent là-bas l'âme océanienne, c'est-à-dire que donner du temps au temps. Et au fond, on n'imaginait pas Gérald Darmanin, vous avez pendant des heures dans une case avec des coutumiers à écouter le silence. Est-ce qu'Emmanuel Macron va être capable de passer des heures dans une case à écouter le silence en présence de représentants de la chiche, ça c'est un beau défi qu'on pourrait lui lancer à Emmanuel Macron.
Est-ce que ça peut pas être simplement un déplacement perdant-perdant?
Oui.
C'est-à-dire que là-bas, si vous donnez raison aux émeutiers, ceux qui attendaient la modification de la loi électorale seront déçus, et si vous maintenez la loi électorale, vous risquez encore de déclencher le feu.
Comme je vous l'ai dit en commençant, il y a des politiques sans chance et des politiques sans risque. Bon.
Est-ce qu'il doit reporter le Congrès? C'est ça la vraie question.
Oui. Moi, je trouve qu'il doit reporter le Congrès.
Donc là, on cède quand même face à la violence.
Non. On essaie d'être intelligent et de mener le dialogue avec des gens acceptant, par hypothèse, de mener le dialogue. Il ne s'agit pas de prendre les adolescents qui balancent.
Non, mais on parle d'eux. Ils partent derrière. Vous savez très bien qu'il y a des organisations.
Il y a le CCAT.
Ils ne sont pas ici tout seuls de bloquer des routes.
Mais je ne vous dis pas ça du tout. Je vous dis, eux, c'est d'une certaine manière les hommes de main ou les adolescents de main.
C'est des délinquants qu'il faut arrêter.
Mais il faut arrêter ceux qui ont des responsabilités sur les morts et sur les blessés, sur les incendies, évidemment. Mais il faut négocier avec ce qu'on appelle les loyalistes, avec ce qu'on appelle les indépendantistes, sachant que les loyalistes sont divisés entre eux et les indépendantistes divisés entre eux, que quelquefois à l'intérieur même d'un petit mouvement à l'intérieur des indépendantistes, il y a deux ou trois tendances, que ça dépend aussi des territoires, qu'il y a les chefs coutumiers qui ont leur influence, etc. C'est horriblement compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tellement de problèmes régulièrement. Bon, c'est compliqué. C'est un risque. Ben oui, c'est une politique à risque. Mais c'est mieux qu'une politique sans chance.
Mais la seule chose qu'on sache de façon sûre, c'est qu'il sera avec un groupe de hauts fonctionnaires. Vous voyez, ça a le mérite d'être totalement flou. Donc des hauts fonctionnaires. Là, s'il en appelle uniquement à la technocratie, Alain, j'ai peur ne permette pas d'en appeler à l'âme océanienne.
J'allais vous dire que ce serait bien qu'il y ait aussi au milieu de ça quelques sociologues, quelques économistes connaissant la région, voire des gens ayant des relations de type spirituel.
Pourquoi pas de représentants du culte ou c'est toujours utile dans un moment où il cherche la paix.
Ça peut être utile. Enfin, l'essentiel, c'est là où on verra si ça marche ou si ça ne marche pas, mais on le verra probablement pas en 24 heures. Mais
l'essentiel,
c'est de savoir. Ou peut-être qu'il faudra qu'un autre y revienne, comme on le disait.
Le Premier ministre, mais après les élections européennes.
De toute façon, c'est déjà annoncé,
c'est prévu,
ça. Donc ça, ça sera dans deux mois. Bon, mais ça, c'est nécessaire. La question là est de savoir si on peut essayer de commencer à nouer les fils d'un dialogue des gens s'opposant entre eux.
Oui, mais pardon, mais Alain, est-ce qu'on va pas trop vite? L'ordre n'est pas encore établi complètement sur l'île.
Je le sais bien.
Donc il arrive dans une situation sécuritaire très compliquée.
Il arrive dans une situation sécuritaire plus compliquée que ça ne l'était il y a une semaine et moins compliquée que ça l'était hier. Bon, et pour le reste, devant un conflit aussi compliqué, il faut savoir prendre des risques. Eh bien, c'est un risque, il faut le prendre.
Mais de toute façon, vu ce qui s'est passé jeudi matin, vous savez, la fameuse visioconférence qu'il a essayé d'organiser,
personne
n'a voulu être en présence des autres. Donc de toute façon, là, l'objectif, ça va être d'arriver à les mettre autour de la table. Et déjà,
ça, si jamais, c'est préparé en amont, j'imagine.
Si jamais il arrivait déjà à faire ça, l'Élysée nous expliquerait que c'est le début d'un rétablissement du dialogue, donc une petite victoire pour Emmanuel Macron.
Ou que voilà. C'est la fin d'un enlisement et de violence. Et ça voudra dire qu'il faudra aider aussi, effectivement, ceux qui ont été les victimes. Parce qu'il y a des victimes, à la fois personnes privées et entreprises, et c'est normal qu'on les aide.
Et sanctionner ceux qui ont commis ces dégâts.
Bien sûr.
Oui, mais le dialogue, c'est pas non plus la faiblesse.
Mais je ne suis pas pour la faiblesse.
Non. Ce que demandent les Français, c'était d'être traités à un autre niveau. Ils se sentaient blessés, humiliés, meurtris d'être traités au niveau du ministère de l'Intérieur. Ils considéraient qu'ils avaient toujours été traités au niveau de Matignon ou de l'Élysée. Là, de ce point de vue que cet acte d'Emmanuel Macron d'aller là-bas physiquement, eh bien, c'est un geste politique et c'est une façon de tendre la main dans la mesure où le dossier lui revient à lui et à Gabriel Attal.
Quand François Mitterrand, président de la République, y était allé, c'était exactement avec ce genre de disposition-là.
En surprenant d'ailleurs, il avait dit en direct qu'il y allait et les journalistes qui étaient face à lui étaient les premiers surpris.
Et quand demain, voilà.
Bon, ben,
et ça n'avait réglé la situation que temporairement.
Bien sûr, mais il y a des moments où il faut d'abord prendre des risques et déclencher des petits chocs pour empêcher des violences et des enlisements. Enfin, c'est compliqué. Mais il n'y a rien d'autre.